Demoiselle, tout le sport.
Studio Sport, Patrick Adriensen, Stéphane Boisson, bonsoir messieurs.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Voilà, vous aviez raté le train de la première la semaine dernière.
Ah, j'ai loupé la marche.
Voilà, il a loupé la marche, mais il est là, c'est reparti avec cette nouvelle saison 2025-2026. Alors, au programme de cette émission, et bien dans la deuxième partie, nous serons avec le Royan Section Rugby pour parler du derby face à Rochefort qui aura lieu donc dimanche pour le coup d'envoi de la saison de Fédéral 3. Nous écouterons également le DTN de la Fédération Française de Voile qui nous parle de notre grande championne, Charline Picon, hein, qui a annoncé sa retraite sportive. Nous parlerons également cyclisme avec le Grand Prix de Mornay-sur-Seudre. Et c'est Alain Lagarde, bien sûr, qui sera au micro dimanche, qui nous en parlera. Et puis, bien sûr, deux événements très importants ce week-end. Le premier match de La Rochelle à domicile en top 14 avec demain après-midi la réception de l'équipe de Clermont. Et puis donc demain, 8h30, le départ de la nouvelle édition du triathlon de Royan. Voilà le programme. Mais tout de suite, nous partons du côté de Saintes pour retrouver Laurent Michaud. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Patrick et Stéphane. Bonsoir à tous et à tous.
Bonsoir Laurent.
Alors Laurent, ben, un petit peu comme la semaine dernière, une actualité sportive synthèse, surtout axée sur le handball. Pour les autres disciplines, il va falloir être un petit peu plus patient.
Oui, en effet, oui, une rubrique synthèse dédiée effectivement essentiellement au hand en Pro League, en deuxième division nationale, on le rappelle à tous. Après leur très belle victoire, quasiment un exploit mercredi dernier au premier tour de la Coupe de France avec cette victoire 40-35 face à Chartres, eh bien, les Saintes ont enchaîné à l'occasion de cette première journée de Pro League dimanche en s'imposant face au SCO Angers 31-27. Une victoire encore maîtrisée. Ils n'ont jamais tremblé, un petit peu en seconde période. Il y avait 16-12 à la pause. Ils ont toujours été devant. Hein. C'est simple, les Angevins sont revenus à deux buts à la 40e, 21-19. Mais les Saintes ont remis les gaz. Et puis, ils s'imposent donc logiquement. Hein. C'est un sans faute pour l'instant en début de saison en coupe et en championnat. Il y avait un peu plus de 1000 spectateurs évidemment, ce qui est normal je dirais, à l'occasion de cette première journée qui a vu une belle prestation d'un des nouveaux venus du côté des Fox, le jeune ailier Milan Paul, un jeune ailier de 21 ans, assez petit, 1m74, comme quoi.
Hein, oui, pour un ailier en handball, c'est pas très grand, effectivement.
Non, c'est pas très grand. Ça nous rappelle quelqu'un, d'ailleurs.
Effectivement.
Si vous voyez qui je veux dire, Yannick Verdier, évidemment.
Bien sûr.
Voilà, un joueur formé à Montpellier, puis qui arrive de Frontignan. Donc voilà, 8 buts, c'est vraiment, dont le premier de la saison. Donc c'est un bon démarrage pour cette belle recrue, a priori, pour les joueurs synthés.
Alors, j'avoue, Laurent, que le match avait lieu donc exceptionnellement dimanche après-midi, hein, puisqu'il y a eu mercredi, comme vous l'avez signalé, ce match de Coupe de France. Oui. À savoir que bien maintenant, en Pro League, hein, les matchs ont lieu le vendredi soir. Et donc, quand dimanche soir, je suis allé voir le résultat sur le site de la Fédération Française de Handball, pourtant, on a confiance en eux, on les aime, nos Fox, mais là, j'étais vraiment scotché, parce que vous l'avez dit, quelle entrée en matière, quand même.
Oui, c'est parfait pour l'instant, hein. Donc sachant qu'ils montent, qu'ils ont renouvelé très fortement, comme on l'a dit la semaine dernière, l'effectif, avec 10 arrivées, seulement 4 anciens. Donc pour l'instant, comme on dit souvent, la mayonnaise prend bien et prend vite. Et donc on espère que ça va continuer. Et donc comme vous l'indiquez, effectivement, les matchs seront essentiellement le vendredi soir, ce qui n'est pas toujours pratique d'ailleurs, mais bon. Donc ce soir, c'est la deuxième journée. Il se déplace à Orléans pour défier le Saran Loiret, qui, à l'occasion de la première journée, avait été assez sèchement battu à Caen 35-28. Caen qui, du coup, copartage la première place, évidemment, avec Saintes et puis d'autres équipes pour ce championnat de Pro League. Voilà, donc un très bon départ. Très bon départ pour les Saintes. On va voir ce que ça va donner ce soir à l'extérieur, parce que bon, c'est toujours plus difficile dans ces cas-là, mais pourquoi pas.
Voilà,
pourquoi
mais alors par contre, le tableau n'est pas tout bleu-bleu, parce que là, effectivement, on parle du côté sportif, il y a le côté financier. Les Saintes ont beaucoup bataillé, hein, effectivement, pendant l'été, pour administrativement parlant, pouvoir accéder à cette Pro League. Le souci, c'est que pour l'instant, il y a encore effectivement 3 joueurs qu'ils n'ont pas le droit de faire jouer.
Et oui, effectivement, comme on en parlait en off... budget est encore un petit peu trop serré, ce qui fait que, par exemple, ça ne rigole pas au niveau de la Pro League. De fait, trois joueurs n'ont pas pu commencer la saison, n'étaient pas qualifiés, puisqu'il manque encore un petit peu à mettre dans le budget pour que ces trois joueurs puissent commencer la saison avec leurs coéquipiers.
Bon. Alors, on explique un petit peu en gros, hein, pour nos auditeurs, ce qui se passe, c'est que effectivement, quand les équipes à ce niveau professionnel montent leur budget, ils ont des promesses effectivement de partenariat et comment dire. Après il y a les confirmations, et donc tous les partenaires n'ont pas, pour l'instant, au moment où on se parle, enfin en tout cas dans le courant de la semaine, n'avaient pas encore tous confirmé véritablement, ce qui fait que le budget sur le papier n'était pas totalement bouclé, et du coup en fonction des salaires des joueurs, on leur dit tel et tel joueur ne peuvent pas jouer, effectivement.
C'est tombé sur eux
voilà, et donc c'est tombé sur des recrues, effectivement.
Du coup, c'est même presque, j'ai envie de dire, prometteur, sachant la victoire, le match qu'ils ont fait sans trois recrues qui, a priori, devraient être aussi bonnes que les autres. Mmh. Donc c'est presque un bon signe, finalement, cette victoire sans ces trois joueurs.
Eh bien, on espère, effectivement, Laurent, que votre optimisme va faire son effet. Mais peut faire confiance quand même au président Franklin Langdorf, à François Voum, effectivement, pour aller finalement décrocher ces confirmations, d'autant plus que pour les partenaires, ceux peut-être qui n'ont pas effectivement encore confirmé, quand on voit les résultats des deux premiers matchs que l'on est partenaire, c'est quand même plutôt encourageant. Hein.
Ah oui, ça va les encourager, oui. À confirmer, comme vous dites, leur promesse, hein, parce qu'on peut parler de promesse et de confirmation, et c'est ça qui prévaut au niveau de la fédération.
Alors pour terminer, Laurent, est-ce qu'on a d'autres actualités sur Sainte pour ce week-end?
Il reste le rugby et le foot qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière. Alors je vais commencer par le rugby, vous en parliez tout à l'heure en Fédéral 3, c'est le début de la saison. Et il va y avoir donc plusieurs beaux derbys cette saison. Sainte reçoit Léognan. Et vous me parliez que Léognan avait terminé premier de la phase régulière.
Une équipe, effectivement, qui a terminé l'an dernier premier de sa phase de poule en Fédéral 3, oui.
On peut considérer, à juste titre, que c'est un gros morceau d'entrée pour les Saintes. Ça va les mettre dans le bain tout de suite. Donc j'ai évoqué plusieurs derbies. Alors vous en parliez tout à l'heure.
On parlera des autres tout à l'heure, dans la deuxième partie, avec entre autres Rochefort-Royan dimanche,
Et samedi, alors c'est samedi prochain, on le dira évidemment vendredi prochain, mais c'est samedi 20 à 20h, le deuxième match de Sainte. Il faudra peut-être s'habituer à ça, qui recevra Puy-le-Borough déjà pour un premier derby pour les Saintes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous laisse parler de l'autre gros derby.
On en parlera tout à l'heure. Très rapidement, parce qu'on est pris par le temps, Laurent. Quelques mots sur le foot, très vite.
Oui, le foot, c'était la première journée la semaine dernière en départemental lune. Hein, ils sont descendus la saison dernière. Et dimanche. Et ils sont inclinés 5-1 à Mata. Ça commence pas très bien.
Ça commence mal.
Oui. Et puis c'est effectivement un tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine dimanche. Ils se déplacent à Saldangle, une D4. On espère qu'ils vont quand même battre une D4.
Et ça serait bon pour le moral, effectivement. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Et puis on se retrouve donc vendredi prochain.
Mais bien sûr.
Bonne soirée. Bon week-end.
Demoiselle, tout le sport.
Le retour de Patrick et Stéphane, deuxième partie Studio Sport.
Rebonsoir Cyril, dites donc, avec Lady Gaga, ça commence fort l'émission de sport.
Pas mal. Dans l'ambiance du week-end.
Ça donne la tendance, effectivement, ça va pas mal swinguer tout au long du week-end. À commencer donc dimanche après-midi avec Stéphane, le coup d'envoi des matchs de fédéral, fédéral 2, fédéral 3. Et on commence à Rochefort par un derby, puisque Rochefort va recevoir le RSR, le Royan Section Rugby. Alors, on avait passé la semaine dernière l'interview du manager général de Rochefort, Franco Pagny. Et bien là, ce soir, au téléphone, donc nous avons le plaisir d'accueillir le président du RSR, Jean-Robert Renoux. Bonsoir, monsieur Renoux.
Monsieur.
Alors, première rencontre donc de cette Fédéral 3. Alors, face à, est-ce qu'on peut dire vraiment un des gros morceaux de la poule ?
Sûrement. Mais si vous voulez, il y a beaucoup d'inconnus dans cette poule. D'abord parce que c'est une équipe qui redescend, qui redécouvre la Fédéral 3. toutes les équipes dans cette poule sont renforcées. Nous concernant, on a une expérience maintenant de l'année dernière qui nous a engagés à faire aussi un certain renforcement de l'équipe. Et puis les joueurs ont pris conscience de leur niveau puisqu'ils ont réussi à se sauver en restant en Fédéral 3, justement avec une formation 100% royanaise, puisqu'on avait pas eu le temps, puisqu'on était monté par le championnat de France, on n'a pas eu le temps de faire un recrutement l'année dernière. Voilà.
Alors ça, c'est un petit peu l'essence du club de Royan, hein, d'évoluer le plus possible avec des joueurs locaux.
Oui, alors on a une très bonne école de rugby, on en est fiers, effectivement. On a souvent d'ailleurs des joueurs qui partent, mais qui reviennent. En l'occurrence, là, cette année, c'est Jérémy Alvarez qui a été formé au club et qui est parti à Niort en Fédéral 1 et qui, bien sûr, qui a fait les beaux jours de Surgères et qui est très heureux maintenant de finir ici. C'est quand même quelque chose qui revient souvent et qui nous comble, parce que ça veut dire qu'il y a une fidélité au club. On s'y sent bien. On a une identité locale. On n'a pas effectivement le plus gros budget. On arrive à être compétitif sans dépenser beaucoup d'argent pour l'instant. Et on a donc le plaisir de voir des joueurs de ce niveau revenir au club et nous apporter toute leur expérience.
Alors, l'année dernière, effectivement, vous avez souffert avec... On fait un petit coup de chapeau à Lorenzo Cogno, hein, il a donc arrêté d'entraîner le club, mais c'est vrai, je crois qu'il a dynamisé cette équipe durant les saisons précédentes. Vous avez beaucoup souffert, vous avez réussi à vous maintenir en Fédéral 3, mais vous avez aussi acquis, du coup, beaucoup d'expérience.
Oui, vous avez tout à fait raison. Lorenzo, c'est le fruit de trois saisons, avec deux saisons où on a fini premier de poule en Régional 1, puis on a fait les phases finales. Et puis la deuxième année, on a réussi à grimper. L'année dernière, on savait que de toute façon, on était programmé pour ce maintien, cette survie, que ça va être compliqué. Donc les joueurs n'ont rien lâché. Ils ont toujours cru en eux. Ils ont pris confiance, il y a eu quelques retours de blessures, mais vraiment c'est un groupe très solide. C'est un groupe qui a souvent gagné sur les dernières minutes, ou qui a ramené des points à l'extérieur sur les dernières minutes. Donc on a cette identité de ne rien lâcher, de toujours y croire et de se battre jusqu'au bout. D'ailleurs, le public a toujours été derrière nous malgré une première phase difficile. On avait vraiment un stade qui vibrait aussi, donc c'était très très sympa. C'était une belle, évidemment une saison difficile, mais une belle saison.
Alors pour cette saison donc 2025-2026, c'est quoi l'objectif? Bon, le maintien bien sûr, mais éventuellement peut-être être un petit peu plus haut dans le tableau.
Oui. L'entraîneur voudrait et le staff et les joueurs voudraient qu'on garde notre terrain invaincu cette saison. Franchement, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, on va voir un peu par rapport au premier match. Mais effectivement, ça serait l'objectif sur les prochaines années, c'est d'être en quelque sorte une référence en Fédéral 3. Pour que nos joueurs de l'école de rugby, les jeunes, puissent jouer à ce niveau-là. On n'a vraiment pas la prétention de monter en Fédéral 2. D'ailleurs, si on regarde l'économie locale, ça serait assez compliqué. Mais par contre, se stabiliser et pourquoi pas faire effectivement des phases finales, un tour par exemple, ça serait une belle récompense pour le groupe, oui.
Bonsoir. Vous avez jeté un petit œil sur le calendrier de début de saison, et si oui, quels sont un peu les objectifs?
Bon, les objectifs, vous savez, franchement, vu la poule de la saison dernière, il y a eu beaucoup, beaucoup de surprises. Les objectifs, c'est vraiment de bien figurer. On a quand même quelques renforts qui sont arrivés. On va voir si ce groupe joue bien ensemble. Franchement, Rochefort, c'est très compliqué de savoir à quel niveau ils vont s'exprimer. Donc, non, on va. Franchement, c'est pas du tout pour se cacher ou pour. On a vraiment. On est en observation. On a confiance en nous, ça c'est clair. On va aller là-bas pour faire un résultat. Ça c'est sûr. Les garçons sont très motivés à l'image de leur entraîneur, qui est un vrai guerrier. Mais après, vous savez. C'est très très compliqué de savoir se situer dans cette poule.
Ok, bien merci beaucoup Jean-Robert Renoux, et puis on vous attend donc bien sûr à 15h15 pour ce coup d'envoi dimanche après-midi.
Oui, ben, merci beaucoup, et puis nous sommes impatients, on attend ce dimanche avec impatience.
Merci beaucoup. Bonne soirée, Jean-Pierre Renoux. Jean-Robert Renoux, pardon. 18h38 sur l'antenne de Demoiselle. Une petite page de pub et on se retrouve tout de suite.
La Maison des Douanes à Saint-Palais-sur-Mer expose celle qui, à son insu, a été reconnue comme l'une des plus grandes photographes du XXe siècle, Viviane Mayer. Un témoignage qui se veut à la fois esthétique, artistique et le reflet d'une époque à travers un regard dont le talent est longtemps resté insoupçonné. À cette occasion, des images inédites de son périple de plus de 6 mois autour du monde, réalisées en 1959, seront révélées. Ses œuvres sont à découvrir dans l'exposition Viviane Mayer, au bord du monde, du 5 avril au 2 novembre 2025, à la Maison des Douanes. Informations sur www.aglo-royan.fr.
Chez Century 21, on construit plus qu'une carrière, on accompagne les projets de vie. Rejoignez une équipe soudée où chacun s'enrichit au contact des autres. Formation, évolution, rémunération sans plafond, vos ambitions n'ont pas de limite. Century 21 Grand Large recrute 2 conseillers en transaction sur le pays royanais. Prenez rendez-vous dès maintenant pour un entretien au 05 46 22 39 21 ou venez nous rencontrer à l'agence au 36 rue Gambetta à Royan.
Entre vous et nous, il n'y a qu'un pas. Rendez-vous dans nos agences de proximité ou sur vivaservice.fr. Pour l'entretien de votre logement, de votre jardin, mais aussi la garde de vos enfants ou encore l'accompagnement d'un parent en perte d'autonomie, nos intervenants à domicile sont là pour vous. Demandez votre devis gratuit sur vivaservice.fr et bénéficiez du crédit d'impôt immédiat.
Agence Viva Service Royan, 7 rue des Cormorans, entre le centre des impôts et la caserne des pompiers.
Viva Service et la vie devient Viva.
300 pilotes à moto et quad dans 8 catégories. C'est la rencontre motocross nationale les 13 et 14 septembre à Saint-Jean-d'Angély. Quad et moto de 65 et 85 cm3 le samedi. Moto 125, 250 et 400 cm3 le dimanche pour un maximum de spectacles. Passe de jour à 10€, gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte. Billetterie, buvette et restauration sur place avec parking gratuit. Rencontre motocross nationale les 13 et 14 septembre à Saint-Jean-d'Angély. Plus d'informations sur motoclub-angérien.com.
Avant, Sandrine faisait tout chez elle. Et puis un jour, paf, Sandrine a eu du pif. Pour tous ses services à domicile, elle a fait appel à APEF. Alors, vous aussi, demandez un devis sur APEF.fr. Ah. Aide aux seniors, ménage, repassage, pour tous vos services à domicile.
Et paf, APEF.
APEF, agence de Royan, 4 bis avenue Maryse-Bastier, en centre-ville.
Et paf, APEF.
Chérie, tu as vu le nouveau poêle chez les voisins? C'est un Jotule. Il est magnifique et il chauffe super bien en plus.
Et ils font des économies. On devrait peut-être y penser, nous aussi.
Et tu sais quoi? Jusqu'au 15 octobre, la TVA est offerte sur les poêles à bois et granulés Jotule.
Alors là, c'est tout vu. On va vite chez Jotule.
Oh oui, Jotule, fabricant de poêles et cheminées scandinaves depuis 1853. Rendez-vous chez l'âtre royanais Jotule Vaux-sur-Mer. 4 rue Paul-Émile Victor, zone Val-Lumière, Vaux-sur-Mer. Voir conditions en magasin.
Il se passe toujours quelque chose au Casino Partouche de la Tremblade Ronce-les-Bains.
Samedi 13 septembre, c'est la dernière soirée latino de la saison avec Isabelle Olmos à partir de 20h. Préparez-vous à danser latino et à vous régaler. Repas 25€ avec 10€ de crédit jeu. Soirée latino, ce samedi 13 septembre à partir de 20h. Pensez à réserver car les places sont limitées.
Casino Partouche de la Tremblade Ronce-les-Bains, 46 avenue de la Chaumière.
Partouche. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurinfoservice.fr. 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon phare. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. We'll be right back.
Tout le sport.
18h43, retour du sport.
Vous l'avez entendu tout à l'heure donc dans nos différents journaux, notre championne Charline Picon a donc annoncé sa retraite sportive avec après de très nombreuses médailles au JO. Eh bien, nous proposons d'écouter donc le directeur technique national de la Fédération française, Guillaume Chiellino, qui nous parle justement de la carrière de Charline Picon.
Elle représente une icône. Elle a porté l'équipe de France pendant 15 ans. Elle nous rappelait ce matin que ça faisait 19 ans qu'elle était membre de l'équipe de France. Elle a eu un parcours incroyable. Elle a évidemment marqué le sport voile et la partie olympique de notre sport, mais elle a tout simplement marqué le sport français. 4 participations aux Jeux Olympiques, 3 médailles. Alors c'est important de rappeler à vos auditeurs que dans notre sport, on peut faire qu'une seule médaille par Jeux Olympiques. Donc ça, c'est une difficulté. Charline, elle aurait sans doute pu, à l'image d'un Léon Marchand, rapporter 3, 4, 5 médailles par Olympiade. Elle a été limitée à une, mais à chaque fois, elle est allée chercher son Graal. Évidemment, le titre olympique de 2016, la médaille d'argent de 2021, et puis là, elle aurait pu s'arrêter là, et elle s'est lancée dans un défi incroyable, quasiment changer de sport, parce que passer de la planche à voile, la RSX en l'occurrence, au 49er FX, c'était un pari incroyable. Il a fallu qu'elle réapprenne tout dans un temps très court, hein, puisque les Jeux de Tokyo avaient été reportés d'une année. Et donc, elle s'est lancée dans ce pari incroyable avec Sarah Steyert. Et elle a réussi, elles ont réussi à aller chercher une très très belle médaille de bronze. Donc c'est un parcours extraordinaire pour la voile et pour le sport français.
Vous le dites, hein, en fait, le fait de changer de support en voile, c'est comme passer du handball au basket, c'est assez énorme.
Oui, franchement, c'est une très bonne comparaison et on pourrait les multiplier. Elle est sur une planche à voile, d'un coup elle se retrouve sur un dériveur, elle était en solitaire, d'un coup elle se retrouve en double, elle était avec une seule voile, d'un coup elle se retrouve avec 3 voiles. Elle se retrouve avec un mât à régler, avec un bateau, avec tout plein de réglages. Donc elle a dû, et elle le dit très bien, hein, elle a dû tout réapprendre.
On parle de retraite sportive, hein. Elle va continuer à s'impliquer pour la voile française.
Ça, c'est vraiment la très bonne nouvelle. Donc évidemment, sa décision, elle l'a mûrement réfléchie. Et moi, en tout cas, en tant que DTN, j'ai pas du tout cherché à l'influencer dans un sens ou dans un autre. J'attendais son coup de fil, je vais être honnête, un peu fébrilement. Elle a fini par m'appeler cet été et il y avait 3 options. Dans les options, il y avait évidemment qu'elle continue. Et puis il y avait aussi qu'elle veuille continuer à servir son sport et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle souhaite qu'on continue à collaborer et ça franchement c'est une excellente nouvelle parce que parfois il y a des sportifs et je peux les comprendre qui décident de tourner vraiment la page et de se destiner à autre chose. Donc les contours de cette collaboration sont encore pas complètement définis, mais par contre Charline, elle a envie de continuer à servir la voile, elle aime ce sport. Encore une fois, c'est pas encore sous quelle forme, mais elle est brillante en préparation physique, elle est incroyable sur la préparation mentale, c'est la femme des grands rendez-vous. Elle a évidemment à apporter en coaching en général. sur le plan technique, évidemment. Donc, on va trouver des moyens de collaborer et c'est vraiment une excellente nouvelle pour la Fédération française.
Voilà, donc c'était le directeur technique national Guillaume Chiellino, interrogé donc au téléphone par Emmanuel Bidot. On peut le dire, hein, Stéphane, c'est Charline, c'est un peu. On en parlait avec les collègues de la rédaction tout à l'heure. C'est un peu comme Colette Besson il y a des années. C'est vraiment une icône du département. Hein.
Ah, on a pas mal de spécialistes, hein, de voile, de planche à voile, de sky ici sur La Rochelle. Seul petit allez, point noir, c'est qu'on n'avait pas eu les épreuves de JO puisqu'ils étaient partis du côté de Marseille. Ça aurait été une très très belle surprise et une très belle récompense de les avoir ici à La Rochelle. Mais c'est vrai qu'on a un plateau d'or.
Oui.
Et je voulais rebondir aussi sur la voile, puisqu'on va donner quelques nouvelles de Violette d'Orange, puisqu'on est à 9 jours de la Mini Transat. La Boulangère, d'ailleurs, c'est elle la marraine de cette épreuve. Départ des Sables d'Olonne. Ce sera dimanche 21 septembre pour une première étape du côté de Sable, donc qui reliera Santa Cruz, avec ensuite la deuxième qui avec une arrivée en Guadeloupe.
Alors, sans aucune transition, nous revenons sur Terre, nous passons de la voile au cyclisme, puisque donc dimanche après-midi aura lieu une nouvelle édition du Grand Prix cycliste de Mornac-sur-Sodre, et au micro nous aurons Alain Lagarde, mais justement il est là au téléphone, Alain, pour nous parler un peu des favoris de cette épreuve. Bonsoir Alain.
Bonsoir Patrick.
Alors Alain, donc vous serez au micro, hein, de ce Grand Prix, à l'animation de ce Grand Prix de Mornac dimanche après-midi. Ça devient une épreuve quand même très importante dans le département. On rappelle, pour les spécialistes du vélo, au niveau des catégories, c'est une Open 1, 2 et 3.
Effectivement, donc comme vous le disiez fort justement, il s'agira de la quatrième édition, hein, du Prix de la Seudre. Art et carrelage, souvenir Guy Latour. Et oui, c'est une épreuve qui prend de l'importance au fil des ans, avec cette année une soixantaine de coureurs au départ. Et parmi ces 60 coureurs, il y a, on va dire, environ 30% d'Open 1, 30% d'Open 2, 30% d'Open 3 et 10% d'Access.
C'est quand même très équilibré.
Comment ?
Je dis, c'est tout de même un peloton très équilibré.
Alors, c'est un peloton très équilibré, et alors cela peut-être paraître peu de coureurs au départ, et moi je peux vous dire que c'est beaucoup, quand on voit l'importance des pelotons au départ des épreuves actuellement, nous pouvons dire que cette épreuve donc de Mornac regroupe un nombre relativement important de coureurs, et surtout des coureurs avec un palmarès très étoffé. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de citer le palmarès sur la ligne de départ avec mon collègue Patrick Vignier, qui est l'autre animateur. Nous serons deux animateurs. Et d'ailleurs, cette épreuve, il faut le dire, sert de support également au championnat départemental de la Charente-Maritime pour les catégories Open.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le nom des favoris ?
Ah oui, donc évidemment, celui qui fait véritablement figure de favori n'est autre que Kylian Larp. Qui appartient à Angoulême Vélo Club. Il totalise déjà 14 victoires depuis le début de la saison 2025. Il est en grande forme. C'est le grand favori. Mais il y a bien sûr d'autres concurrents qui vont tenter d'aller chercher la victoire. Je pense à Rayan Aplancourt, qui appartient à l'équipe d'Apogée Cycliste, qui il a obtenu une victoire à Barbezieux cette année. L'an passé, chez les U19, il avait remporté l'épreuve d'Avaï Limousine. Louis Chambon, qui était un redoutable sprinter, il est jeune, il est U23 première année, mais c'est un coureur qui va très très vite au sprint. Si d'aventure il était dans l'échappée ou si le peloton était groupé à quelques centaines de mètres de l'arrivée, il pourrait bien aller chercher la victoire. Maël Payancé également, qui est un garçon du Sprinter Club du Périgord, qui a remporté l'épreuve de Radour-sur-Vair, qui se remet progressivement là de quelques soucis de santé. Maxime Grégoire, qui a déjà 4 victoires cette année. Enfin, autant vous dire qu'il y a du beau monde. Et puis, ce qu'il faut dire, ce qui est remarquable à Mornac, et là, il faut tirer un grand coup de chapeau à Patrick Bretin, qui est vraiment la cheville ouvrière, il y aura beaucoup de primes et de prix, puisque il y aura 1 300 € de prime mise en compétition sur cette épreuve, ce qui est quand même remarquable, avec 1 500 € de prix également, ce qui fait que voilà, il y aura en tout plus de 2 500 € distribués ce dimanche. Le dimanche 14 septembre.
Oui, c'est vrai que pour ce niveau, Open 1, 2, 3, il y a beaucoup d'organisateurs, je pense, qui aimeraient pouvoir mettre autant d'argent sur la table.
Ah ben là, c'est absolument évident. Enfin, moi qui suis un habitué des épreuves cyclistes, qui anime régulièrement, il est maintenant très rare de voir une épreuve aussi bien dotée. D'autant plus que les choses ont été bien faites. Patrick Bottin a vraiment pensé à toutes les catégories. Tout le monde sera récompensé. Donc les Open 1, mais aussi il y a des prix spéciaux pour les Open 2, les Open 3, les Access, avec des primes spéciales également à certains passages sur la ligne pour les Open 2, Open 3, qui sont censés bien sûr être un peu moins forts que les Open 1.
Oui, Stéphane.
Oui, à l'heure actuelle, une question par rapport justement finances. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des cyclistes donc qui fustigent contre ces augmentations là de tarifs de la FFC, hein, pour pas les citer, par rapport aux licences l'année prochaine. Vous avez un œil là-dessus ?
Ouais, pas véritablement. J'ai appris l'information comme beaucoup d'autres présidents de clubs, dirigeants de clubs. Effectivement, il y a une augmentation des licences. Alors, bon, il faudra voir avec le temps ce que cela va donner. Bon, je pense que la fédération a bien sûr des soucis pour équilibrer le budget, comme toute association, comme tout club. Mais voilà, je pense qu'il faudra rester extrêmement prudent quand même, parce que le cyclisme est un sport qui coûte cher, hein, cher de par le matériel et puis par les déplacements également, hein. Donc ouais, je crois qu'il faut faire attention quand même à pas trop augmenter, même si c'est dans l'air du temps bien évidemment, mais ça peut poser quand même quelques problèmes pour certains coureurs. Alors bien sûr, parfois les licences sont payées par les clubs. Mais c'est la même chose, les subventions des collectivités territoriales ont maintenant tendance à diminuer et les clubs ont beaucoup de difficultés maintenant à boucler leur budget. Donc c'est tout à l'honneur de Patrick Bottin, hein, et de son équipe d'avoir vraiment pu collecter autant d'argent. Il faut vraiment remercier les partenaires, et ça je le ferai le jour J, parce que c'est quand même pas une mince affaire. Hein. C'est, dans le département, c'est très vraisemblablement l'épreuve la mieux dotée.
Eh bien, merci beaucoup Alain Lagarde, et puis donc bon courage au micro pour dimanche après-midi.
Oui, nous nous retrouverons donc dimanche après-midi, effectivement, pour ce Grand Prix de Mornac-sur-Seudre, avec un départ à 14h30, donc il faudra y être à partir de 14h pour la présentation des coureurs. Il y aura au total donc 108 km à accomplir sur ce circuit, et ce qui représente 16 tours de circuit.
Merci beaucoup Alain, à très bientôt.
Merci à vous, à très
bonne
bientôt,
soirée. Au revoir. Il est 18h55, oui Stéphane.
Oui, je voulais rebondir également sur le 23e Tour féminin de l'Ardèche, avec la participation de l'équipe
Woodspence. Très grosse épreuve. Hein.
Oui, très grosse épreuve, avec des très grands noms qui sont là-bas, présents, et dont l'équipe Woodspence de Jean-Christophe Barbetin. Aujourd'hui, c'était le contre-la-montre de 20 km. Alors, ça a été gagné par Micha Bredevoort, hein, on la connaît. La première fille de Jean-Christophe se classe avec 2 minutes 13 de retard, mais elle n'a pas donné son dernier mot, puisque les deux prochains jours seront des étapes pour elle, pour Nadia Gontova, puisque ça va être quand même assez vallonné. Et oui, ça se termine dimanche à Privas, après 100 km.
C'est vrai que de manière générale, l'effectif de cette équipe Woodspence est plus un effectif de filles qui aiment la montagne. Hein,
ouais, des grimpeuses.
Et voilà, c'est plus une équipe de grimpeuses. 18h56, bien on va parler d'un des événements principaux, effectivement, de ce week-end. C'est la deuxième journée de Top 14, mais la première fois que le Stade Rochelet retrouve son public au Stade Marcel de Flandre. Et donc, c'est pour la venue de l'équipe de Clermont. Et nous avons bien sûr notre ami Jean-Michel Blaiseau au bout du fil. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Patrick.
Alors Stéphane est là aussi, hein, vous inquiétez pas, on est là l'un en face de l'autre.
Je suis assis sur la chaise.
Pas sur mes genoux. Hein. Jean-Michel, ben voilà, première rencontre de la saison officielle pour le Stade Rochelet, et d'entrée, ben, un gros morceau.
Oui, clairement, c'est une équipe solide, batailleuse, qui aime le combat, et ça va être probablement âpre devant. Voilà, et donc tous les Rochelais fans du Stade Rochelais attendent avec impatience cette relance à De Flandre devant 18 000 personnes dorénavant. Donc ça va faire encore un peu plus de bruit peut-être, j'espère. Et voilà, on attend ça avec impatience après une saison quand même relativement frustrante l'année passée.
Alors on a vu l'équipe de Clermont là effectivement batailler sérieusement sur leurs points forts les packs d'avant. D'ailleurs ils ont performé contre Toulouse, même si ils ont perdu lors de leur première journée. Ils ont été très très accrocheurs quand même. Hein.
Oui, c'est Clermont. Clermont est une équipe dense, âpre, qui aime ça, qui aime le combat, qui aime l'affrontement direct. Donc faut pas trop s'attendre, je pense, à des grandes envolées. Ça va être rude et je pense que le retour des joueurs comme Skelton, Wardy, probablement Cancoriette va apporter un plus dans cette dimension-là et sur ce paramètre-là. Voilà, et j'espère que tout se passera bien malgré notre ailier Dylan Leeds qui regardera les copains s'affronter.
Ah oui, c'est vrai qu'il est blessé pour de longues dates, mais Clermont a je pense cette année un gros rôle à jouer dans ce championnat, puisqu'il faut pas l'oublier, ça va être la 100e saison dans l'élite. Seuls deux clubs l'ont réalisé, hein, dans toutes les équipes du championnat, Toulouse et Clermont, et ils fêteront d'ailleurs leur centième contre Pau la semaine prochaine.
Et oui, ça fait partie des incontournables du rugby français, qui est présent et bataille toutes les saisons pour faire le mieux possible et s'approcher du morceau de bois. Voilà, nous aussi, je pense que avec l'impulsion dernière, le Garec Astoy, qu'on va donner, qui vont donner du peps à notre jeu, j'espère que on va bien figurer et faire aussi bien, sinon mieux que Clermont, sur la longueur de la saison.
Alors c'est vrai que la semaine dernière pour le Stade Rochelais, ça a été un match, alors on va dire d'une première journée, mais ça a quand même envoyé pas mal de jeux quand même. Hein.
Oui, Bordeaux s'y prête. Hein. Bordeaux, c'est pas Clermont, c'est pas du tout le même jeu. Bordeaux s'y prête. On a envoyé beaucoup de jeux. On a été très conquérant sur le plan de l'occupation du territoire. Sauf que dans les 20 derniers mètres, dans la zone de marque, on n'a pas été suffisamment patient, suffisamment précis, suffisamment concentré. Et on a passé beaucoup de temps sans concrétiser cette domination territoriale. Voilà, et à un moment donné, c'est Bordeaux. Hein, sur un ou deux coups, ils sont capables de mettre l'adversaire à mal et de marquer.
On l'a vu notamment des erreurs de jeunesse en balançant la balle un peu n'importe comment par les anciens, justement, qui ont coûté très cher.
Et oui, on a abusé des offloads, on a abusé probablement des ballons pas suffisamment sécurisés. Je pense qu'ils retiendront la leçon. En plus, on va voir probablement demain Sotoni et Niniashvili qui vont débuter leur saison. J'espère qu'ils vont porter un petit plus dans la rigueur et dans l'attractivité de notre jeu.
Oui, ça va être un gros combat, ça c'est sûr. En tout cas, chose est sûre, c'est qu'on n'aura pas Joël Sclavi, puisqu'il est du côté de avec l'Argentine, du côté de l'Australie.
Oui, on aura Wardy probablement. Oui, on n'aura pas Sclavi. Sclavi fait partie de ces joueurs qui sont encore mobilisés sur les terrains internationaux. Voilà. On aura Skelton. Skelton va réintégrer l'équipe et apporter sa densité. Il y en a besoin contre Clermont. Il faut du lourd devant et du solide. Donc voilà, j'espère que ça suffira pour donner le petit plus qui permettra aux attaques derrière de concrétiser l'ascendant qui pourrait prendre le PAC Rochelet.
Alors Jean-Michel, ben justement, je vous annonce la compo de l'équipe de La Rochelle. Elle est parue donc sur le site du Stade Rochelet. Alors au niveau du 15 de départ, nous aurons donc Alexandre Cadoury, Pierre Bourgarit, Alexandre Kuntelia, Paul Boudouan. Paul Boudouan donc qui va fêter sa 100e apparition sur les couleurs jaune et noir.
En seconde ligne,
Kane Douglas, Levani Botia, Oscar Gigou, Grégory Aldrit, notre capitaine. Toujours bien sûr à la charnière, Nolan Le Garec et Antoine Astoy, David Niniashvili, Jonathan Danti, Jules Favre, Vunivalu et Hugo Paco. Mais sur le banc, on va retrouver donc Latou, Louaki, Will Skelton, effectivement, il sera bien là, Concourier, Mathias Sadad, Thomas Bergeon, Sema Laguivala et Karl Serin. Voilà pour la composition du Stade Rochelet.
Très bien. À l'arrière, c'est le petit Pacôme qui joue.
Ouais, c'est ça. Oui, pour le départ, ça sera effectivement lui, oui.
Il me plaît bien ce petit joueur, là, ce petit jeune. Il a du talent et il sent le rugby. Voilà.
Voilà, plusieurs hein, qui sentent le rugby. D'ailleurs, on voit à l'aile Niniashvili. Je ne sais pas s'il a beaucoup été sur les ailes du côté de Lyon.
Oui, il a joué ailier plus souvent d'ailleurs qu'arrière à Lyon. Il est capable d'occuper un peu tous les postes dans la ligne de trois quarts. Hein. Il a joué beaucoup à l'aile, oui, il avait été recruté pour jouer à l'aile. Il a joué beaucoup à l'aile.
Bon buteur aussi.
Oui. Bon, ça, on ne manque pas trop de buteurs. Astoy tient la route aussi.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Michel. On vous retrouve très bientôt.
Oui, demain.
Et demain, on se retrouve demain dans la tribune de presse. Oui, Stéphane. À très bientôt, Jean-Michel. Donc, à demain, on rappelle le coup d'envoi à 16h30. Et dans quelques instants, on va terminer avec un autre événement important donc, de ce week-end. C'est le triathlon de Royan. Ça sera dès demain matin. En attendant donc d'avoir Mathieu Blaise au bout du fil, quelques nouvelles, Stéphane.
Oui, pour terminer sur le rugby, on notera également en Fédéral 2 le déplacement de Surgères au Stade Bordelais. Le Stade Bordelais qui est un promu dans cette division, mais c'est un club avec un passé historique vraiment très très glorieux, puisque au début du siècle dernier, ils ont quand même glané 7 Brennus, 12 finales, une Pro D2, donc en 2004, très récemment. Et donc, c'est effectivement l'un des très grands clubs de championnat.
Et Surgères, on le rappelle, mais qui, dans le département, maintenant est le seul club évoluant pour cette saison en Fédéral 2. On va donc partir du côté de la Côte de Beauté, puisque donc demain matin sera donné le départ d'une nouvelle édition du triathlon de Royan. Et pour nous en parler ce soir, nous avons au téléphone Mathieu Blaise en pleine préparation. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir, bonjour à tous.
Bonsoir.
Alors, j'imagine, sur les charbons ardents, il y a toujours quelques petits détails de préparation à finir, là, à quelques heures du départ.
Ah oui, toujours, on court partout. Mais ouais. Voilà, ça fait partie du jeu. Maintenant, on a hâte d'y être. On est quasiment complètement prêt à accueillir tous nos athlètes.
Oui, d'ailleurs, les dossards ont commencé à être distribués.
Oui, les dossards ont été distribués à partir de 14h aujourd'hui jusqu'à 20h, donc il reste encore un peu de temps, et puis le reste sera demain matin avant les départs.
Vous avez discuté un petit peu avec des prétendants ? Prétendantes. Alors, également ?
Oui, tout à fait. On a Marion Collard, côté femme, qui est une athlète aussi du team triathlon, qui elle-même organise ce triathlon et qui l'a invitée, et qui est une forte prétendante chez les femmes, chez les féminines. Chez les hommes, on a la chance d'avoir Romain Guillaume qui revient nous dire coucou. Donc voilà, grand athlète, jeune retraité, mais qui s'entraîne encore énormément. Et puis Thibaut Collard, le frère de Marion Collard, qui est également jeune athlète pro et qui va pouvoir venir jouer la bataille avec Romain.
On le rappelle, hein, Marion Collard, ex-fille de cyclisme du Stade Rochelet, mais elle a quand même éclaté cette année, puisqu'elle a remporté le triathlon catégorie L du côté de Montauban là, ces derniers jours. Là.
Exactement. Marion Collard, ex-cycliste pro elle-même, et l'année dernière, qui a déjà fait de très belles places sur les podiums et qui a remporté effectivement Montauban plus tôt dans la saison, et qui revient ici du coup avec des vraies ambitions, hein, je pense, en tout cas à son niveau, pour essayer de venir chercher une très belle place.
D'ailleurs, on la voit sur les réseaux sociaux initier un petit peu les jeunes venant au triathlon à quelques bons conseils.
Exactement, exactement. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Elle nous a fait l'honneur de faire une courte vidéo sur les conseils, donc en transition, sur la natation, sur le vélo, la course à pied. Tout à fait.
Alors, cette année, donc deux versions. Hein. Il y a la version M et la version L.
Oui, exactement. On garde bien évidemment le version L qui est la version historique qu'on retrouve depuis des années, qui est vraiment le marqueur de Royan où les grands athlètes sur le longue distance viennent se tirer la bourre. Et on a souhaité l'année dernière proposer une nouvelle distance, la distance olympique, année des JO. On trouvait que c'était quand même un signe intéressant. Et on doit dire que les clubs ont vraiment répondu présent. Donc cette année, on a décidé de reconduire le même dispositif de deux courses. Et les deux courses sont pleines. Donc voilà, on est très heureux. Et j'en profite pour remercier tous les athlètes qui se sont inscrits en nombre cette année.
Alors vous dites les inscriptions sont complètes. Ça veut dire combien d'athlètes amateurs professionnels sur le circuit?
Alors les inscriptions sont complètes et on a même eu du mal à se coordonner pour fermer correctement les inscriptions. Et donc on a dépassé un peu, on attend 671 athlètes sur le triathlon M, distance olympique. Et on attend un peu moins de 400, 396 athlètes sur le distance long format. Et on a une quarantaine d'équipes en relais sur le format longue distance également. Donc en total, on a plus de 1120 athlètes qui sont attendus demain.
Ça fait du monde, ça.
Ça fait beaucoup de monde et les flux vont être très tendus dans la zone de transition. Donc ça va être aussi un spectacle, je pense, intéressant pour les spectateurs qui vont pouvoir en profiter de manière un peu plus continue avec voilà, les deux départs à une heure d'intervalle, ce qui va laisser finalement assez peu de temps entre les derniers athlètes d'un des formats de course et puis les premiers athlètes du format suivant.
Alors c'est vrai que sur le M, le départ est à 8h15 et sur le L à 9h15, et puis avec des arrivées qui vont s'échelonner tout au long de la journée.
Ouais, exactement. Sur les triathlons M, départ à 8h15, les derniers sortants de l'eau vont sortir de l'eau a priori autour de 9h. Et puis on enchaîne avec un départ à 9h15 et les premiers athlètes qui sortiront de l'eau du format L sortiront vers 9h40. Donc finalement, ça va venir très très vite.
Et une météo mi-figue, mi-raisin malgré tout, hein.
Ah bah alors écoutez, effectivement, on s'attendait, alors hier à l'installation on a eu beaucoup de pluie, aujourd'hui on s'attendait à beaucoup de pluie également, et puis finalement le plan d'eau ce matin c'était une vraie piscine, on a eu beaucoup de soleil également à l'installation. Là ce soir ça se couvre un peu, on va voir demain à quelle sauce on va être mangé.
On parlait de prétendants, il y a aussi celui qui a gagné à Montauban, Rémi Dulagarde, là de La Rochelle.
Oui, tout à fait, je l'ai oublié.
Ah, c'est pas bien, parce que je pense qu'à mon avis, il vise quelque chose. Hein.
Ah oui, tout à fait, Rémi Lagarde sera forcément aussi sur les premières places à la bataille, avec aux côtés de Romain probablement, aux côtés de Thibaut également, si tout se passe bien. Donc c'est vrai qu'on va avoir une belle bagarre aux avant-postes. Ouais. Et puis j'en profite aussi pour parler d'un paratriathlète, Geoffrey Versy, qui nous fait l'honneur d'être présent. Paratriathlète olympien qui était aux Jeux de Paris et qui prépare les Jeux de Los Angeles. Et pour son anniversaire, nous fait l'honneur de venir faire son premier triathlon, elle, à Royan. Donc voilà, on est ravis de l'accueillir.
Alors, dernière question, Mathieu. La suite du triathlon de Royan, comment ça va se passer en 2026 hein?
Ah bah ça va très bien se passer, je vous rassure. Oui, effectivement, on est dans le cadre d'une passation, d'une transition depuis plusieurs années. Et donc, voilà, cette année, on a souhaité annoncer que c'était la dernière à Royan, en tout cas la dernière telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Mmh. Et très rapidement, à la fois les collectivités, la mairie de Royan nous a voilà, fait part de son souhait de voir se poursuivre l'épreuve. Et donc, on a eu des échanges avec plusieurs personnes et sociétés et associations intéressées. Et donc, ce sera sous la marque Open Lake, une association belge basée à Namur, qui a un triathlon en Belgique, un triathlon en Champagne également, et qui, voilà, qui se développe doucement en France. Et pour eux, ça va être une première sur l'océan. Donc voilà, on a affaire à vraiment des vrais professionnels, et donc moi et sûrement une partie de l'équipe, on va pouvoir continuer à leur côté et développer ce triathlon. Il va y avoir un changement de philosophie, des courses beaucoup plus aussi orientées vers les jeunes, vers les amateurs. Donc il va y avoir un changement de projet, mais on va vraiment s'inscrire dans la continuité. Et je peux vous l'annoncer, puisque c'est officiel, les dates du triathlon de Royan sous la marque Open Lakes en 2026 seront le 5 et 6 septembre prochain.
Donc il va falloir avoir la frite.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Juste avant de vous quitter, on va rappeler une petite info, toujours concernant donc le triathlon, c'est que Alexandre Caille, qui évolue au sein du club de Saujon, va lui disputer ce week-end la finale mondiale de l'Ironman de Nice, et il espère aller décrocher la plus haute distinction dans la catégorie des 30 et 34 ans. Hein. Et à la fin du mois de juin dernier, pour sa première participation sur cette distance donc de l'Ironman, il avait gagné au Sable d'Olonne en 8h et 12 minutes. Donc on va le suivre de près. Ça sera donc à Nice également ce week-end.
Tout à fait. Et je peux vous dire qu'ici aussi, on va le suivre de très près. Beaucoup de personnes en parlent et beaucoup de personnes portent beaucoup d'espoir sur ce jeune athlète qui va, on est sûr, faire une très belle course à Nice et faire honneur aussi au pays saujonnais et royanais.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu. À très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir. Très bonne journée.
On termine rapidement, oui Stéphane.
Oui, avec le handball, puisque c'est la deuxième journée de National 2 féminine. Onis reçoit une autre et grosse équipe de ce championnat, puisque c'est Fleury-Loiret avec un palmarès exceptionnel historiquement. Et puis c'est le troisième tour de la Coupe de France au niveau du football. Voilà.
Et voilà, ben c'est terminé donc pour cette deuxième édition de la saison 2025-2026. On vous retrouve donc vendredi prochain et nous demain matin, un petit résumé du sport à 7h30 et à 8h30. Allez, bye bye, bon week-end.